Et bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+. Tous les vendredis à 11h, retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le soir même à 20h, ainsi que le samedi à 12h10, écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui, je reçois Olivier Saccomano, auteur et co-directeur avec Nathalie Garraud du théâtre des 13 vents CDN à Montpellier. Bonjour Olivier.
Bonjour.
En seconde partie, Guillaume, chanteur, musicien, auteur, compositeur, pour la sortie de son nouvel album Trouble Fête. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors Olivier Saccomano, nous sommes quasiment à la moitié de votre programmation 2023-2024 et pour clôturer ce mois de décembre, vous nous donnez à voir et à revoir votre excellente création 2022, Institut Ophélie, interprétée par votre troupe. Alors à la mise en scène, Nathalie Garraud, au texte vous-même. De quoi s'agit-il ?
Oula. Il s'agit d'une femme, partons de là, puisque la pièce commence comme ça, d'une femme seule dans une pièce étrange, qui va subir ou provoquer un certain nombre d'apparitions, comme des fantômes de l'histoire, des figures historiques qui viennent la hanter, qui sont comme des images ou des représentations avec lesquelles elle se bat, ou qu'elle mine, ou qu'elle transforme ou subvertit, et qui retrace quelque chose comme une traversée du XXe siècle et des représentations à la fois artistiques et politiques des femmes. Et elle a comme guide, disons ça comme ça, une figure lointaine de Ophélie, c'est-à-dire une jeune femme qui, dans la peinture en tout cas, est restée comme... Et puis évidemment, elle naît du théâtre, c'est un personnage de théâtre, mais qui représente une figure féminine plutôt sacrifiée dans la tradition, mais à partir de laquelle nous on lance plutôt une espèce de contre-offensive poétique, c'est-à-dire qu'elle lui sert de point d'appui pour exercer sur le plateau, à l'encontre et avec les images qu'elle a autour d'elle, une espèce de joie féroce, de souveraineté, comme ça. Voilà.
Oui, oui, cette pièce est géniale. Alors, avec Un Hamlet de moi, votre précédente pièce, Institut Ophélie, s'inscrit dans un diptyque shakespearien.
Oui, enfin, on voulait travailler sur la figure d'Ophélie, parce qu'elle nous intéressait bien justement comme figure délirante et comme point d'entrée possible dans ce motif-là de l'histoire des femmes. Et donc, c'est parce qu'on voulait travailler sur Ophélie qu'on a fait une pièce d'étude sur le Hamlet de Shakespeare. On fait souvent ça pour d'abord mettre nos pas dans une pièce qui n'est pas à nous, et puis très vite on s'en détache, parce que Hamlet de moi est une réécriture complète de la pièce de Shakespeare. Mais oui, donc ça s'est fait en deux temps. Mais c'était plutôt un travail d'étude, un travail préparatoire. Et puis un Hamlet de moi est aussi une pièce qu'on joue en itinérance dans toute la région. Et donc ça, on y tient beaucoup de pouvoir travailler sur les deux fronts, à la fois au théâtre, sur les plateaux, avec les moyens qui sont ceux du théâtre, avec des scénographies, de la lumière, et puis aussi des formes plus légères, qui nous permettent d'aller d'abord à la rencontre d'autres lieux et d'autres publics, et puis de revenir un peu au nerf du théâtre, qui sont les acteurs, du texte, et puis des connaissances techniques très légères, des coups très modiques, qui fait qu'on peut aussi aller jouer dans des lieux où il n'y a pas de théâtre. Et donc, ces deux plans-là sont très importants à maintenir simultanément.
Et du coup, pour Institut Ophélie, il est prévu aussi de l'itinérance ?
Ah non, pas pour Institut
Ophélie. Voilà,
Hamlet
de
moi tourne en itinérance, et Institut Ophélie, c'est une forme qui est pour les plateaux.
Et il me semble qu'un Hamlet de moi là est programmé en fin de saison. Il me semble l'avoir vu, non ?
Il y a quelques dates de tournée, mais elles se rajoutent parfois au fur et à mesure de la saison. Donc j'invite tout le monde à aller voir sur le site du théâtre pour avoir le détail.
Oui, et ça aussi c'est excellent. Genre, je l'ai vu deux fois et à chaque fois je me suis régalé. Et ainsi Ophélie, je l'avais vu à la création et c'est clair, je reviendrai le voir aussi. Parce qu'en même temps, voilà, le spectacle a bougé, c'est normal.
Le spectacle a bougé, puis à vrai dire, il bouge tous les jours, parce que on répète, enfin Nathalie et les acteurs répètent quotidiennement, parce que une fois que la forme de la pièce a été trouvée, il y a 1000 détails, 1000 couches à nouveau explorer, réexplorer, et puis je crois que c'est ce qui fait le cœur de notre travail quand même, de continuer à enquêter sur les pièces. Voilà, c'est pas des choses qui sont finies, Ce n'est pas des choses qui sont fixées, même si la structure, évidemment, est fixe. Mais ça remet tout le monde au travail quotidiennement, les œuvres théâtrales. En tout cas, c'est comme ça que nous, on les pratique.
Voilà. Oui. Alors, Ophélie est magnifiquement interprétée par Conchita Paz. Donc, elle interprète le rôle de Jeanne. Et d'ailleurs, j'ai vu des super critiques la concernant. Mmh. Elle est vraiment magnifique sur scène.
Ah bah oui. Il y a des gens qui disent
c'est pas pour rien, ou si vous l'avez choisi. Hein.
Bon, c'est même pas qu'on l'a choisi, c'est qu'on travaille ensemble depuis quasiment presque 15 ans avec Conchita. Oui. Donc, on ne fait pas de distribution à proprement parler. Nous, on travaille en troupe. Voilà, et c'est des histoires longues. Alors, pour beaucoup de personnes, cette pièce-là, comme c'est un premier rôle féminin et que c'est une des premières fois où c'est aussi marqué dans notre travail, effectivement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que là, c'est une révélation. Mais oui. Pour nous, ce n'est pas une révélation. On a toujours su que c'était une immense actrice.
Ben oui, mais nous, on la découvre vraiment. Elle est magnifique. Alors, on va dire que c'est la représentation féminine dans l'histoire de l'art qui en prend aussi pour son grade, là. Hein, parce que vous me parliez dans l'écriture de références, etc. Et c'est assez jubilatoire.
Oui. Ça a attaqué par plusieurs points. Ce n'est pas vraiment une attaque au sens, je ne sais pas comment dire, une critique des représentations. Il y a, on pourrait dire, une histoire parallèle de certaines représentations qui nous amène à visiter parfois certains tableaux. Mais ce n'est pas pour les attaquer frontalement, c'est pour en livrer dessus un regard complexe et surtout du point de vue d'une femme. Donc, quand Conchita, voyant une femme au foyer, pense tout d'un coup à la Joconde, sans sourire, elle se met à partir et à dériver à partir de ça sur ce que c'est que le sourire des femmes dans la peinture, ou quand la figure de Andy Warhol apparaît fugitivement sans être nommée, c'est aussi parce que Warhol a participé à sa manière à l'iconisation des femmes victimes aussi. Marilyn Monroe, ses premières sérigraphies arrivent une semaine après sa mort, et puis il a un rapport très trouble à ces questions-là. D'ailleurs, une féministe bien connue, Solana, s'est venue lui tirer dessus à la fabrique à New York. Et donc, il y a comme un arrière-plan comme ça qui n'est pas explicité dans la pièce, mais qui est constitué de plein de motifs, plein de tensions qui traversent l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire de la politique, et que la pièce agrège, mais comme dans une sorte de rêve ou de cauchemar par moment. C'est-à-dire que ce n'est pas un théâtre documentaire sur les conditions des représentations de la femme, c'est vraiment pris à partir des rêveries, délires, désirs d'une femme sur le plateau.
Oui. Alors je propose qu'on écoute un premier extrait texte, et vous nous situerez l'extrait ensuite.
J'aime les choses qui se répètent. Plus on regarde exactement la même chose, plus elle perd tout son sens. Et plus on se sent bien, la tête vide.
C'est écrit.
Comment ça?
Ce que vous dites, c'est écrit.
Oui.
Mais pas par moi.
Non, ce sont des citations.
C'est ce que je pensais.
Et donc
c'est étrange.
Je ne cherche pas à être original. Ce que je dis, vous auriez pu l'écrire.
Non.
Mais si.
Je suis une femme.
Tu dis, je suis une femme. Et là, il semble qu'il y a deux chemins qui s'ouvrent, ou deux chemins qui se croisent. Et si tu veux, je peux le dire comme ça. Il y a un chemin qui t'emporte, et un chemin qui te ramène à la maison. Elle n'a pas très envie de rentrer à la maison. Parce que la maison, elle sait ce que c'est. Et surtout, la maison sait pour elle ce que c'est qu'une femme. Et là, bien sûr, c'est une sorte d'horreur.
Alors, Olivier Saccomano, c'est un son que je vous ai volé. Que je diffuse sans votre autorisation.
Je suis pour le vol.
Bon, merci. Alors, voilà, est-ce que vous voulez nous situer
On en parlait précédemment, le premier passage, le premier dialogue, c'est entre une figure d'Andy Warhol. D'ailleurs, c'est un dialogue qui est composé parfois de certaines citations d'Andy Warhol. Par exemple, regarder toujours la même chose, et jusqu'à ce qu'on ait la tête vide, etc. etc. Ça, c'est des citations de Warhol qui sont réinsérées dans le dialogue. Et puis, il y a tout d'un coup une intrusion au milieu de ce dialogue-là, d'une autre figure qui est lointainement inspirée par celle de Deleuze, dans la modalité du discours, dans l'histoire de trouver un processus, ou qu'est-ce que c'est qu'un devenir féminin. Et puis aussi parce que Deleuze n'aimait pas beaucoup le théâtre, alors ça nous amusait qu'il puisse dire dans une de ses séquences, un peu plus loin, elle lui dit « mais tu sais que tu es un fantôme », puisqu'elle est entourée de fantômes d'une certaine façon. Il lui dit « je préfère être un fantôme qu'un personnage de théâtre », ou il dit dans cette scène-là « la famille ou la maison, c'est un mauvais théâtre ». Donc c'est une manière de jouer avec des motifs qui apparaissent chez certains penseurs et qu'elle convoque, parce que là, on ne sait pas d'où elle sort, cette figure, c'est juste un homme qui ouvre la porte et qui rentre dans cette pièce, qui passe, qui dit une chose et puis qui ressort. Donc la pièce est construite comme ça, presque d'associations successives qui lui passent par la tête. Voilà.
Il faut voir, il faut voir. Hein. Alors on va juste noter la présence de Valentine Carrette pour la semaine prochaine, c'est ça, c'est un remplacement de rôle.
C'est une reprise de rôle, oui, parce qu'une des actrices ne pouvait pas faire toutes les dates de la tournée qu'on lui a ensuite, et donc Valentine nous a rejoint, elle a eu sa première hier, on en est très heureux.
Bon, alors je propose que nous enchaînions sur le qui-vive, et pour faire la petite transition, on va écouter une musique aussi qui fait partie de l'Institut Ophélie.
Là, c'est une valse, la mascarade de Khatchatourian, qui ouvre la pièce, qui amorce cette espèce de manège infernal qui dure. Et donc, voilà, c'est une espèce de ronde ou de mouvement qui anime toute la première partie de la pièce, avec cette musique impulse.
Oui, très très beau. Alors bon, voilà, hein, à voir et à revoir, ne ratez pas Institut Ophélie, donc ce vendredi 15, puis mardi 19, mercredi 20 à 20h, il vous en coûtera entre 8 et 22 euros, toutes les informations et réservations sur 13ans.fr et les réseaux, et voilà, à ne pas rater non plus le qui-vive de ce samedi. Alors pour les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas le concept, est-ce que vous voulez nous le présenter? Et qu'est-ce qui se passera en particulier ce samedi?
Le qui-vive, c'est une journée qui nous est permise par le mode de programmation qu'on fait au 13 ans, où les artistes restent plus longtemps que simplement le temps où ils jouent les pièces. Et donc, on construit avec eux une journée qui est faite de la projection d'un film, de la rencontre avec un invité ou une invitée, et puis d'une pièce qui est présentée le soir. C'est en tout cas cette forme-là que ça prend cette saison, qui est précédée par le séminaire d'Olivier Neveu. Et donc on conçoit cette journée-là avec les artistes du mois. Alors là, en l'occurrence, c'est nous qui jouons ce mois-ci. Donc on a construit ce qui vive. Et donc il y aura le séminaire d'Olivier Neveu à 16h. Et puis la projection d'un film de David Mambouche à propos de la pièce qu'on a vue au 13 ans l'année dernière, Umwelt, de Maggie Marin, qui s'appelle Derrière les miroirs, et qui est, je ne sais pas si vous avez vu cette pièce, Umwelt, c'est des danseurs qui franchissent un seuil de miroir, et il y a toute une chorégraphie invisible du public qui se passe à l'arrière, et que David a filmé. Et donc comme c'était une pièce qui a été très inspirante pour nous dans Ophélie, où des gens franchissent des portes et ressortent, et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent derrière, on s'était dit que c'était un bel écho au travail. Et ensuite, on aura une discussion avec Geneviève Fraisse, qu'on est très heureux d'accueillir,
la philosophe.
Dont, notamment autour d'un livre qu'elle a écrit il y a un moment, qui s'appelle « La suite de l'histoire, artiste, créatrice », et qui a été aussi un livre important dans la création de l'Institut Ophélie. Et puis le soir, une pièce montée par une compagnie de jeunes femmes qui s'appelle « La saga de Molière », qui raconte de façon virulente et en mode théâtre de tréteau, une histoire de Molière. Et ça, c'est une merveille aussi. Donc ça fait une journée, normalement, assez joyeuse. Et puis on fêtera aussi, enfin on fêtera, ça a eu lieu depuis un moment, la sortie des livres de la collection Méthode, puisque contrairement au moment de la création, là le texte de la pièce, Institut Ophélie et un Hamlet de moins, est publié, accompagné de documents de création, et en l'occurrence la correspondance que Nathalie et moi, de lettres que Nathalie et moi ont envoyées à la troupe pendant les 3 ans qu'a duré la construction de ce cycle. Et il y a 2 autres livres dans Méthode, un entretien avec Maggie Marin et des textes de Jour d'œil. Mais voilà, c'est aussi c'est assez bien de revenir jouer la pièce ici, parce que des choses se sont passées entre-temps, notamment ce travail d'édition qui nous tient beaucoup à cœur, quoi.
Voilà. D'accord. Donc ce samedi 16, c'est de 16h à 1h. Donc ne ratez pas à 16h le séminaire d'Olivier Neveu. Alors cette année, sa thématique, on va dire, c'est sur...
Qu'est-ce que regarder un spectacle ?
Voilà. Ouais. Donc je pense que c'est passionnant. En tout cas, tout le monde est... Je connais énormément de gens qui sont fans de ce monsieur. Moi, je ne le connais pas encore, mais j'y serai samedi.
Très bien.
Et donc ça vous coûtera 10 euros.
Le séminaire est en entrée libre.
D'accord.
C'est à partir de 17h que le qui vive commence officiellement.
Voilà. Et pour toute la soirée,
Pour les
ouais,
trois.
Donc, ça, c'est super. Mmh. Alors, passons à janvier, qui est consacré à l'acteur Nicolas Bouchot.
Oui.
Qui vient... Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu, lui, à Montpellier.
Ben oui. Pas si longtemps. Il est venu jouer dans Civadier. Voilà.
Je plaisante, oui. Ouais.
Il va bientôt se. Voilà.
Voilà, il va s'installer à Montpellier.
Peut-être. En tout cas, on voulait. Ça fait un moment qu'on discutait avec Nicolas. Justement organiser un mois où il puisse jouer deux de ses solos, Maîtres anciens, d'après Thomas Bernhardt, Maîtres anciens, entre parenthèses, comédie de Thomas Bernhardt, et La loi du marcheur, qui est une pièce magnifique, composée à partir des derniers entretiens de Serge Danet, le critique de cinéma, mais qui est bien plus qu'un critique de cinéma, qui est quelqu'un qui regarde le monde à partir de ce que le cinéma a fait à son regard.
Oui, elle est super. On l'avait d'ailleurs vu au Printemps des Comédiens il y a quelques années. Hein.
Ouais.
Mais je propose qu'on écoute un extrait donc, de Maître ancien.
Nous devons écouter Bach et entendre comment il échoue. Écouter Mozart et entendre comment il échoue. De même, nous aimons un être parce qu'il est impuissant et imparfait, chaotique et incomplet. Il n'y a pas de tableau parfait, il n'y a pas de livre parfait, il n'y a pas de morceau de musique parfait. Voilà la vérité. Et c'est cette vérité qui permet qu'une tête comme la mienne, qui n'est autre sa vie durant qu'une tête désespérée, continue d'exister. La tête doit être une tête chercheuse. Une tête chercheuse de défauts. Aucune œuvre de ce musée n'est sans défaut. Je vous le dis, vous pouvez en sourire, cela peut vous effrayer. Moi-même, cela m'enchante. L'art, c'est ce qu'il y a de plus grand et en même temps de plus réputé.
Sacré Nicolas Bouchot.
Sacré hein? Thomas Bernhardt.
Oui, tout à fait. Donc à découvrir mercredi 10 et vendredi 12 janvier à 20h et le jeudi 11, ce sera à 19h. Et il y aura une rencontre à l'issue de la représentation. Et pour la loi du marcheur, ce sera du 16 au 18. Hein. Alors,
il y a beaucoup d'autres choses aussi avec Nicolas Bouchot, puisqu'il reste un long moment.
Oui.
Il y aura aussi des projections au cinéma Diagonale et pas mal de rendez-vous avec l'association des spectateurs aussi. Donc tout ça est indiqué.
Plein de choses comme d'habitude. Mmh. Alors moi j'ai noté quand même en particulier la représentation du 18 qui sera accessible aux personnes en difficulté visuelle avec une autodescription du spectacle précédée d'une rencontre avec l'équipe artistique et d'une visite tactile. Je trouve ça vachement bien.
Et ça, on fait c'est ça depuis important. Un moment. Hein.
Ouais.
C'est assez... Et le moment précédent la représentation, la visite tactile, et c'est un moment étonnant parce que les personnes malvoyantes touchent le décor, parfois le visage des acteurs, écoutent leur voix pour pouvoir ensuite avoir un certain nombre de repères pendant la représentation. Donc le moment préparatoire est très beau aussi, comme lien.
Ah oui. Alors, et là, donc du coup, en janvier, notons la soirée poésie du 25 au Trioletto.
Absolument, avec Laura Vasquez,
oui.
Prix Goncourt de la poésie.
Oui. Et donc, ce sera à 20h. Le Trioletto se situe rue Augustin Flich.
C'est
dans
ça.
Le quartier des
scène femmes. Ouverte. Lecture de Laura Vasquez,
oui.
Suivie d'une scène ouverte, comme à chaque fois.
Oui.
Voilà, puisque l'idée de ces soirées, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est ça. On fait venir des poètes et des poétesses dont c'est le métier, mais on colle à cette forme-là, traditionnelle, une autre forme traditionnelle, celle de la scène ouverte. Et ça produit des chocs qui sont toujours assez bon.
Ah oui, c'est toujours très sympa. Et alors justement, puisqu'on est sur ces soirées poésie, celle de février, elle sera au Madre Diosa, un bar très très sympa aussi. Mmh. Je pense que là, ça risque d'être aussi assez rigolo.
Avec Rebecca Chaillon.
Ouais. Alors justement, en février, nous découvrirons deux artistes alors, dont vous aviez déjà parlé, mais qui n'avaient pas pu jouer, il me semble.
Alors, ils ont joué Pierre Meunier et Marguerite Borda, qui font un théâtre extraordinaire, mis d'objets, mis de rêveries, mis de science. Ils étaient venus jouer dans le programme d'été, des brèves pièces, mais on devait les accueillir depuis longtemps avec des pièces qui ont été toutes frappées par le Covid, par les vagues successives, dont La bobine de Ruhmkorff, qui est un solo de Pierre Meunier et qui est une grande pièce très drôle sur la sexualité et sur un mélange étrange entre ce qu'il appelle les lois de l'attirance et les lois de l'attraction. C'est-à-dire qu'il fait plein d'expériences scientifiques pour essayer de penser ce que c'est que nos relations de désir, mais reliées aux grandes lois physiques. Voilà, et c'est très drôle et très... Pierre est une espèce de clown... rêveur, très instruit, c'est magnifique. Et une autre pièce qui est Bachelard Quartet, à partir d'écrits de Bachelard et de musique surtout, puisque c'est une vraie pièce musicale.
D'accord, mais il y a du texte quand même.
Oui, c'est des extraits de Bachelard qui portent sur les... Parce que Bachelard est un philosophe qui a raisonné une partie de sa pensée reposait sur les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Il a consacré des livres à ça. Donc c'est une pensée très étrange dans l'histoire de la philosophie, très, 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 très particulière, et qui a nourri beaucoup Pierre Meunier et Marguerite Borda dans leurs propres travaux. Voilà, donc ils ont décidé de lui rendre une espèce d'hommage non catastrophique par rapport à l'état qu'on sait catastrophique de la planète, mais en essayant justement de nous faire, pendant le temps de la représentation, réinventer d'autres rapports, même imaginaires, aux éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu.
D'accord. Alors donc ça sera du 7 au 9 février, la bobine du 31 janvier au 2 février, et j'en reviens donc pour le Bachelard Quartet, le public sera sur le plateau, et les instruments de musique sont tous en bois, c'est bien ça?
Ouais, comme les gradins, donc c'est une expérience boisée.
D'accord. On enchaînera sur le qui-vive du 3 février, qui sera conçu avec l'équipe de vos invités du mois, toujours le même concept. Mais alors là, j'ai noté qu'il y aurait un viticulteur.
Absolument. Le grand invité est un viticulteur que Pierre connaît bien. Et c'est assez intéressant, dans la saison, il y a des chercheurs, des intellectuels, des militants, et puis aussi un viticulteur, parce que finalement, on s'aperçoit que les questions qu'on rencontre dans la création croise bien évidemment d'autres questions qui se posent dans d'autres métiers ou d'autres disciplines. Qu'est-ce que c'est que le temps du travail? Qu'est-ce que c'est que de construire des choses dans la durée? Qu'est-ce que c'est de résister à l'activité culturelle intensive ou à l'agriculture intensive? Donc en fait, il y a des questions de production, d'art, d'attention qui sont communes à ces choses-là. Et voilà, c'est quelqu'un que Pierre connaît, qu'il a souhaité faire venir dans ceux qui vivent, justement pour établir ce rapport-là.
D'accord. Ouais. Alors, il nous reste 3 minutes. Le mois de mars sera quand même assez singulier. C'est peut-être bien que vous en parliez.
Oui. C'est un mois qui est consacré à 3 autrices, à savoir Marion Aubert, qui présentera la pièce Mue, mise en scène par Marion Guerrero, au 13 vents. Et puis, dans 2 autres lieux de la ville, avec lesquels on fait un co-accueil, ce qui est très important de pouvoir... évidemment travailler au théâtre, mais aussi travailler dans d'autres lieux et avec d'autres partenaires. On accueillera la pièce de Rebecca Chaillon au théâtre Jean Villard, qui s'appelle « Plutôt vomir que faillir ». Et puis, à la vignette, la création de Céline Champineau, qui s'appelle « Juliette et Roméo sont morts », et qui sera une pièce qui sera aussi la pièce d'itinérance cette année au 13 vents. Donc, il jouera à la vignette, mais qui ensuite tournera un petit peu partout. Et ces 3 écritures très, 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 très fortes, très singulières, qui portent toutes les 3, dans ces 3 pièces en tout cas, sur la mue, on peut dire, la métamorphose, la transformation. Mais pour Marion Aubert, c'est celle qui arrive dans la vie d'une femme à un moment donné, on va dire, de seuil ou un moment critique. Chez Rebecca Chaillon, c'est la mue de l'adolescence, on pourrait dire. Et chez Céline Champineau, c'est le passage du temps et ce qui fait à nos souvenirs et aux souvenirs qu'on a des histoires d'amour lointaines et notamment même théâtrales, puisque là, en l'occurrence, c'est celle de Juliette et Roméo, mais revue par des acteurs qui ont joué ça quand ils étaient jeunes, qui reviennent dans un lycée où ils ont joué ça. Et donc, ils mesurent l'écart, disons, ce qui s'est transformé entre-temps.
Alors, j'avais prévu un extrait de Juliette et Roméo sont morts, mais quand je vais accueillir Nicolas Dubourg en début d'année, nous aurons là le temps de passer un extrait. Et je propose que nous terminions notre entretien avec un extrait de « Plutôt vomir que faillir ». Avec des jeunes acteurs, ce sera du 6 au 8 mars, à partir de 12 ans. Donc, à voir là, c'est au théâtre Jean Villard, hein, du coup. Eh bien, écoutez, Olivier Saccomano, un grand merci. Le théâtre des 13 vents se situe au domaine de Gramont, à Montpellier. Donc, à voir et à revoir pour ce mois Institut Ophélie, ce vendredi 15, puis mardi 19, mercredi 20 à 20h. Toutes les informations et réservations sur 13vents.fr et les réseaux sociaux. Et donc, ne ratez pas le qui-vive ce samedi de 16h à 1h. On se retrouve ensuite très vite pour la seconde partie d'émission et cet extrait fera la transition avec notre second invité, Guillaume.
Bon, c'est l'histoire d'un noir gay, d'un juif lesbienne, d'une guyanaise lesbienne et d'un arabe sans étiquette.
Ne plus rien avaler. Aussi, tout prendre et tout rendre. Ingérer, sans digérer, sans intégrer. Plutôt bouffer qu'être en reste. Plutôt risquer que regarder. Plutôt vomir que faillir.
Merci pour votre participation. Eh bien, au revoir tout de même. Bon appétit.
Et oui, vous êtes sur Radio FM Plus dans votre émission Scénorama, donc à écouter tous les vendredis à 11h, avec rediffusion le soir même à 20h et le samedi à 12h10, ainsi qu'en podcast quand vous voulez, où vous voulez, sur radiofmplus.org. Cher Guillaume,
bonjour.
Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir dans cette émission. Votre nouvel album Trouble Fête est vraiment superbe.
Merci.
Bravo. Guillaume, vous l'avez composé, enregistré et mixé entièrement seul.
Oui, il y a que le mastering que il n'y a que le mastering que j'ai pas réalisé tout seul.
Ouais, ouais, ouais. Alors Guillaume, ça s'écrit G U I L H O M. C'est votre nom d'artiste ?
Et oui, c'est mon nom d'artiste. C'était pas forcément une bonne idée de mettre un tréma parce qu'on me retrouve pas forcément très facilement sur les réseaux sociaux, etc. Mais mon prénom, c'est Guillaume, avec un H-L-H-A-U-M-E, mon vrai prénom. Donc ouais. C'est pour ça que j'ai... Quand j'ai pris ce nom d'artiste, c'était aussi une manière de pas trop me dévoiler, mais en même temps de pas... c'est moi quoi, donc j'ai choisi, c'était plus simple de trouver une autre forme écrite de Guillaume, mais c'est moi quoi.
On va dire Guillaume version moderne.
Oui, je sais pas trop.
Alors vous êtes vraiment un artiste aux multiples talents, quand avez-vous commencé la musique et quel est votre parcours?
Ah, j'ai pas du tout un parcours de musicien, enfin j'ai pas fait d'école, je suis autodidacte. J'ai commencé à l'adolescence parce que j'aimais ça, donc j'ai eu des groupes. Au départ, je jouais pas d'instruments. La facilité quand on a 14-15 ans, c'est d'être chanteur dans un groupe, même si on chante faux. Donc très vite, fin du collège, lycée, j'ai fait des groupes comme ça. Enfin, j'ai eu des groupes dans lesquels j'étais chanteur. Puis ça m'a...
Et alors c'était quel style musical? Vous étiez dans quel...
Au départ, c'est parti un peu dans tous les sens, mais j'ai eu une longue période où je faisais du punk hardcore, ensuite du metal, même de la musique un peu industrielle, avec le dernier projet. Et puis après, petit à petit, en parallèle de ça, j'ai commencé à jouer plus sérieusement de la guitare. Et puis petit à petit ça s'est construit et il s'avère que j'aime aussi beaucoup la folk, enfin j'aime plein de choses, le hip-hop. Et donc le premier album était plutôt folk, le deuxième c'est un gros melting pot de toutes mes influences. Voilà.
Ouais. Alors justement, en parlant du premier album qui était en autoproduction, hein,
oui.
Behind April, c'est ça, oui. Donc sorti en 2016.
C'est ça.
Hein,
ça remonte.
Oui, ouais, ouais, mais vous savez que moi je l'ai toujours, hein, cet album. Il était déjà, enfin, il est très très beau. Et alors, il avait été enregistré dans une église romane du XIIe siècle.
Oui, au domaine de Beysan à Béziers.
Oui.
Par Infernal Machine, donc un studio d'enregistrement qui était basé à Béziers, qui a déménagé depuis, et qui enregistrait justement dans ces conditions, dans cette église. C'était une super expérience. Parce qu'on joue avec l'acoustique naturelle de l'église, alors qui est quand même travaillée, matée, etc.
Elle est magnifique,
mais,
cette chapelle, oui.
Mais c'est super. Ça change aussi du studio. Voilà.
Ah bah oui. Donc un 11 titres avec des invités.
Oui, sur le premier album, il y avait des invités,
voilà.
Contrairement au second.
Voilà.
Donc voilà, déjà je jouais avec un batteur qui s'appelle toujours Valentin, Valentin Sanchez. Et puis ensuite il y avait des invités, donc c'était un gros melting pot. Sur le nouveau, par contre, j'ai voulu être vraiment en autonomie complète, un peu enfermé dans ma bulle, et donc. Enfin, j'aime bien le travail solitaire, j'aime bien aussi retrouver des amis pour faire de la musique ensemble, mais c'est deux expériences un peu différentes, un peu complémentaires.
Et du coup, qu'est-ce qui a motivé ce choix de tout faire en solo ?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le premier album, et puis aussi pour les expériences que j'ai eues avant avec les anciens groupes, on était allés aussi en studio, et c'est le travail du son, ça m'intéresse vraiment beaucoup, je trouve ça... Alors pareil, en autodidacte, j'ai juste fait une petite formation sur un week-end pour maîtriser Pro Tools, mais sinon, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis je me suis fait un petit studio, un petit home studio à la maison, progressivement avec des micros, un peu plus de micros, etc., petit à petit. Et ça m'a permis de composer comme ça à la maison. Et de fil en aiguille, au départ, c'était juste pour faire des démos, pour ensuite les travailler avec d'autres musiciens, etc. Puis il s'avère que petit à petit ça s'est construit, notamment pendant la période du Covid, où là j'étais un petit peu pas seul à la maison parce qu'on était en famille, mais je pouvais vraiment plus consacrer de temps à la musique. Et il s'avère aussi qu'ensuite on m'a proposé de faire de la musique pour une pièce de théâtre. Et que donc ce faisant, ben ça s'est construit un petit peu comme ça. J'ai fait des morceaux, d'autres qui ont été que j'ai gardé pour moi, d'autres qui sont pour la pièce de théâtre, etc.
Du coup, c'était pour quelle pièce ?
Alors c'est une pièce qui s'appelle Les Tigres. C'est une pièce pour jeune public.
D'accord.
Qui est reprise là par la compagnie L'Arborescence de Montpellier. D'accord. Avec Adélaïde Elio à la mise en scène. Et puis voilà, donc en fait ça joue d'ailleurs cet après-midi en sortie de résidence, ils sont encore en travail.
À la Vista, non ?
Non, au théâtre Jacques Coeur.
Ah d'accord, voilà. Ah bon d'accord, ok.
Et donc ça se construit, c'est encore en train, parce que pareil ça a été assez retardé par le Covid, ouais. Etc. Mais là c'est en train d'être, c'est en résidence, c'est en travail quoi.
Ouais, ouais, ouais. Alors cet automne 23, vous décidez de vous réinventer et de tout réaliser en autonomie.
Voilà.
Alors comment avez-vous travaillé ? Parce que, enfin bon, voilà, j'imagine qu'en c'est comme ça, on a plein de choses en tête. Comment arriver à se structurer et faire les chevaux ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça s'est pas fait juste à l'automne 2023, ça s'est fait un petit peu avant.
Oui,
en amont.
Oui, j'imagine. Oui.
Mais c'est assez simple. J'ai acheté un peu des claviers, d'autres instruments. En fait, je suis très curieux de tout un tas d'instruments. Et puis il y a quelque chose qui me passionne, c'est les arrangements. Donc j'ai composé à la maison et puis petit à petit j'ai fait différents arrangements, j'ai enlevé des choses, j'en ai remis. Puis il s'avère que ça s'est construit un petit peu comme ça. Au départ j'avais l'impression que les morceaux n'étaient pas du tout cohérents les uns avec les autres. Et au final j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine cohérence qui s'est construite un peu comme ça sur le fil. Et finalement, c'est aussi simple que ça.
Alors, vous travaillez d'abord les musiques et ensuite le texte, ou
La plupart du temps, dans ce sens-là, oui. D'abord la musique et ensuite le texte. Et d'ailleurs, sur cet album, il y a des morceaux où je n'ai pas souhaité mettre de texte.
Oui.
C'est moitié-moitié. Il y a 6 morceaux avec du texte et du chant, et 6 morceaux sans chant. Voilà, parce que j'ai voulu laisser parler un peu la musique aussi.
Oui.
Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi pour moi.
Alors, je sens que Olivier Saccomano meurt d'envie d'entendre, parce qu'on en parle, mais voilà, on veut entendre. Et donc, du coup, on va passer à un premier extrait qui s'intitule « Rien n'est moins sûr ».
Thank you. comprend rien. On avance quand même. On fonce vers l'impact, malgré nos valises pleines et le poids des années. Elles sont lourdes et chargées du fardeau de nos actes manqués, de celui des regrets, des efforts consentis et des grands incendies qui ravagent les plaines, les laissent sèches et arides. Quand nos brèches sont vides, on a pansé nos blessures et blessé nos pensées. On pensait tout recommencer, mais rien n'est moins sûr. Retourner la terre, retarder l'impact, revenir en arrière pour que reste intact le ventre de la mer qui se contracte.
Rien n'est moins sûr. Donc, un des titres sur le nouvel album de Guillaume, la fête, Trouble Fête, pardon. Oui. Alors, bah, tiens, pourquoi, alors, Trouble Fête, c'est aussi une chanson dans cet album. Pourquoi avoir choisi particulièrement ce nom-là?
En fait, ce mot, je trouve, enfin, cette expression, je trouve qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Il y a l'idée évidemment d'aller
d'être un trouble fête,
être un trouble fête, d'aller un peu embêter les gens, ouais. etc. Mais il y a aussi l'idée, en fait, ça renvoyait pour moi à des choses très personnelles par rapport à un deuil que j'ai vécu et qui est apparu très très soudainement, qui n'était pas du tout prévu. Et puis aussi, je penser à l'idée du Covid qui a été un petit peu quelque chose qui est venu troubler la fête, si on peut dire, et tous les changements qu'on pressent, qui arrivent, je trouve, dans notre société, c'est un peu facile de dire ça, mais disons, de façon générale, en ce moment, je trouve que c'est une période assez particulière qu'on est en train de vivre, et voilà. Et donc, d'ailleurs, le morceau qu'on vient d'écouter, les paroles, elles sont assez ambiguës, mais elles parlent aussi de toutes ces choses-là, du fait de l'écologie aussi, des notions écologiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va dans le mur, qu'est-ce qu'on fait, comment on se débrouille avec tout ça, et à quel moment on n'est pas perdu par rapport à toutes ces choses-là. La pochette aussi représente un petit garçon.
Elle est très belle.
Face
ouais,
à un tsunami.
Oui.
Ce qui s'apparente à un tsunami ou un raz-de-marée. Et donc ça fait écho aussi à cette idée-là.
Oui, et la pochette, c'est vous aussi qui l'avez
oui.
faite.
Oui,
oui. Ouais. Et oui, et donc, lorsque vous m'avez envoyé le CD avec un petit mot, et même sur vos réseaux, vous dites que cet album, en fait, vous a permis de surmonter une épreuve compliquée de votre vie.
Mais c'est ce dont je parlais, oui.
Ouais,
en fait, le suicide
ouais.
d'un proche.
Ouais.
Et qui apparaît vraiment comme quelque chose de très inattendu, et donc, voilà.
Oui, on va écouter un deuxième extrait, A Part of Myself.
Je ne soupçonnais pas une part de moi-même. que je ne connaissais pas. Une part de moi-même que je ne soupçonnais pas. Une part de moi-même que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas.
Ce morceau il s'appelle A Part of Myself et c'est un morceau sur lequel je suis parti sur une rythmique un peu maloya, même si au final c'est pas vraiment un morceau maloya parce que j'adore la musique de La Réunion et puis qui parle un petit peu de l'idée de trance, enfin de se laisser porter par la danse, de s'oublier un peu pour se retrouver finalement. Donc après les paroles sont en français et en anglais parce que là, j'ai pas d'explication. Ça vient comme ça vient. Parfois, ça me vient en anglais. Parfois, ça vient en français. J'essaye de trouver un équilibre entre les deux. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'explication.
D'accord. Alors, Trouble Fête est disponible sur toutes les plateformes numériques, mais aussi dans les magasins indépendants type Fnac, Culture, ouais. etc. Et surtout, je pense que c'est quand même... Le mieux, c'est de vous l'acheter, de vous le commander directement, non ?
Oui, alors après, c'est distribué, donc on peut le commander sur Bandcamp, mais aussi dans tous les magasins, en fait, et même demander à son disquaire préféré
de le commander.
De le commander,
c'est vrai. Oui.
Et voilà. Et après, en concert, voilà, j'ai pas de date de concert
pour
bientôt,
l'instant.
Pour ouais. l'instant, mais bien sûr, il est disponible aussi.
Et donc, il est sorti aussi en vinyle.
Oui, alors ça, c'était un gros plaisir personnel que je me suis offert parce que moi j'écoute beaucoup de vinyle, c'est vraiment un objet qui me plaît, ne serait-ce que pour la pochette et puis le son, etc.
Fait.
Et puis là je trouvais que les morceaux s'y prêtaient bien parce qu'il y a beaucoup de contrebasses, donc ça descend assez dans les graves et que le vinyle c'est vraiment un objet qui, enfin, musicalement c'est un plaisir. Et puis il y a tout le rituel aussi d'écouter la première phase, puis de changer la... De changer le disque, enfin de tourner le disque. Donc ça, c'est j'aime bien l'idée du rituel.
Oui, oui, oui. Alors, on va écouter un troisième morceau, Not Today, Not Tomorrow. Vous voulez nous le présenter ?
Ah, c'est un morceau qui est un petit peu plus proche de ce que j'avais mis sur le premier disque, c'est-à-dire qui est un peu plus folk, avec de la guitare acoustique. Et quelques influences vaguement flamenco, mais en toute modestie, on va dire. Et voilà, et les paroles sont en français, et parlent un peu de la procrastination, du manque de motivation. Et
ça a été votre cas, à une certaine période
Souvent, la procrastination, c'est quelque chose contre lequel beaucoup de monde lutte, et moi-même, assez souvent. Et il ne faut pas se laisser abattre par la procrastination.
Thank you.
Trouble Fête, donc le dernier album de Guillaume. Je trouve très très beau. C'est un beau voyage. Hein, Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? On est bien à vous écouter. Et alors, les retours sont excellents. Déjà, il se vend bien. Hein,
oui. Enfin, à mon niveau, hein, c'est pas non plus.
Non, mais attendez, moi je trouve ça super. Et alors, dans les retours, j'ai noté, je cite, de la vraie musique, très riche, très planant par moments, les paroles sentent le vécu, la bienveillance, plein d'univers différents, des morceaux comme des petits voyages, c'est super chiadé.
Merci.
Les retours donc de vos fans.
Ben, l'idée du voyage, moi je trouve que c'est super intéressant parce que la musique c'est du voyage de toute manière. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de mélanger différentes influences, différentes choses, différents instruments qui sont pas toujours associés et que j'aime bien associer. Et puis il y a l'idée aussi un peu de musique de film qui me, moi j'adore la musique de film, donc voilà, on va dire que c'est un road movie.
Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui. Alors, un clip va sortir normalement début janvier.
Oui,
on est en train. Ça sera sur un titre en particulier.
Oui, c'est celui qu'on a écouté juste avant.
D'accord. Donc
Part of Myself.
Oui, d'accord.
Et voilà. Et puis j'espère en faire d'autres. Enfin, on a commencé à réfléchir sur un deuxième clip pour la suite. Et parce que bon, c'est assez long, c'est du travail aussi, mais c'est intéressant parce que justement le côté musique de film, etc. Je trouve que l'image aujourd'hui, on l'associe très très vite à la musique. Pas seulement que pour des raisons commerciales, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que faire un clip ça aide aussi à faire écouter sa musique, mais il y a aussi l'aspect on crée tout un univers autour de la musique, les images vont avec et c'est une proposition nouvelle, donc c'est aussi un moyen de rebondir, je trouve, sur ce qu'on a déjà fait pour proposer une relecture un petit peu. Voilà.
D'accord. Eh bien, nous attendrons donc ce premier clip. On va terminer avec le dernier morceau, Up Down. Mm. Et puis, surtout, enfin, moi, je recommande aux auditeurs, auditrices, en ces périodes de fête, eh bien, Trouble Fête sera un très beau cadeau, un objet que l'on gardera précieusement.
Espérons,
en tout cas, ce sera mon cas.
Les fêtes ne soient pas trop troublées, justement.
Un grand, grand merci,
Guillaume. Merci beaucoup, Annick.
Et donc, voilà, on termine avec Up Down. Et nous, on se retrouve la deuxième semaine de janvier pour une nouvelle émission Scénorama. Passez de bonnes fêtes à toutes et tous. Merci Olivier, merci Guillaume.
Merci.
Merci Florian qui était avec nous. Bye bye.